Le grand témoin. Bonjour et merci de rester fidèle à Grand Témoin. Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui un ancien Kadogo, un ancien enfant soldat. Il s'appelle Josué Mufula. Actuellement, il est chef des travaux à l'Université Pédagogique Nationale et à l'Université Protestante du Congo. Josué Mufula, c'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission.
Merci madame.
Et avec vous, dans notre entretien, vous allez nous parler de votre expérience d'enfant soldat.
Oui, Madame Kelly, je voudrais d'abord rectifier que je suis doctorant en philosophie politique à l'Université catholique du Congo et donc, comme vous l'avez dit, chef de travaux à l'UPN.
Merci pour cette précision. Alors, oui. Comme j'ai dit, vous allez partager avec nous votre expérience d'enfant soldat. Vous êtes entré dans l'armée où vous êtes enrôlé à l'âge de 11 ans.
Voilà, 11 ans et demi, dans la ville de Goma, ma ville natale, en fait. Bon, voilà, il n'est jamais aisé de parler de soi-même, mais c'est toujours un réel plaisir.
Je vais vous aider à parler de vous.
C'est toujours un réel plaisir quand je me retrouve dans le studio de la radio Capi. C'est la ville de Goma qui est libérée en troisième position.
Alors, avant d'entrer dans les détails, hein, oui. On va faire d'abord un pas en arrière pour parler de votre enfance. Vous êtes né à Goma.
Oui, je suis né à Goma.
Et c'est à Goma où vous avez grandi.
Oui, d'un père, Joël Kizabandou, Mufula, un Mwami de Masisi, mais qui était professeur à l'Institut de Goma, Instigo, et ma mère, Rizé Kaboui, Patience, qui elle vendait le paille, et pouvait aller acheter de l'huile de palme.
C'est une commerçante.
Oui, commerçante au Rwanda, à Butembo, et elle vendait. Au marché de Virunga.
Vous avez grandi dans quelles conditions?
En tout cas, une famille plus ou moins modeste, hein, dirais. Et puis, ma mère s'est battue, mon père, prof, comme on l'appelait dans le quartier, donc il savait s'organiser aussi, et donc on ne manquait de rien, en tout cas, à la maison. Mm-hmm. Voilà. C'est pas que je suis allé dans l'armée comme les autres amis, les autres. Condisciples hein, qui peut-être trouvaient l'armée comme un lieu de refuge hein, et qui fuyaient la situation sociale familiale hein, pour l'armée. En tout cas, c'était pas
le cas pour
c'était
vous.
C'était pas le cas. Moi, c'était une aventure d'enfance hein, et les modèles Rambo qui nous hantaient. Et aussi, il faut parler surtout hein, de l'influence du discours de M. Laurent Désiré Kabila à la place aux ACAF. Comme je l'ai dit, Goma est libérée, troisième ville, après Uvira et Bukavu. Et du coup, M. a organisé son discours à la place aux ACAF, à Goma. Tous les jeunes sont allés, les parents et les autres, vous voulez entendre.
Vous n'aviez que 11 ans et demi.
Oui, en fait, tout le monde voulait aller voir le Balinda Amani, comme on disait, les artisans de la paix, mais c'est pas après qu'on a vu qu'il y avait aussi les mercenaires rwandais et les autres. Et puis, on devait entendre, tout le monde était curieux d'entendre.
Vous étudiez en ce moment-là?
Oui, j'étudiais à Litige, en première CO déjà, donc en première secondaire, mais j'ai pas fait plus de 2-3-4 mois, et du coup, la FDL entre, et j'abandonne les études sous influence, dans les discours, on me tient, et puis... Il appelle le jeune, venez vous faire enrôler, nous allons vous former, et puis arriver à Kinshasa, ce qu'ils pourront.
C'était par conviction que vous avez suivi cet appel à Domzé.
Qui est-ce qu'on appelle enfant? Enfant, c'est celui qui réfléchit pas. Hein. Et tant que, je dirais, on était enfant, gamin, et on vous appelle, et puis il y a quand même aussi quelques promesses. On vous dit.
C'est ça qui vous a attiré au fait des promesses.
Moi j'ai dit c'est peut-être l'influence hein, surtout, mais le modèle Rambo, on a vu aussi hein, le jeune Tutsi, les enfants, peut-être qu'ils étaient enfants de tous les commandants rwandais qui sont devenus plus tard nos instructeurs, qui nous ont formés en Ouganda, à Matebe, au centre de Matebe. Mais déjà, je dois dire que en fait, il y a aussi un point qui est important, qu'il faut souligner, c'est que lorsque Juvenal Habyarimana, le président rwandais, est tué, il y a les réfugiés qui entrent à l'Est. Ils étaient dans le centre de réfugiés vers le stade à côté de Mongoma là-bas. Et à un moment donné, il y a eu des tracasseries et tout ça. Et le président Mobutu, le maréchal, envoie les KZSEC, un contingent zaïrois pour la sécurité de camps de réfugiés de Mugunga et ailleurs. Et bon, ils sont venus sécuriser, mais malheureusement, il y a eu aussi l'extorsion, il y a eu en fait beaucoup d'actes qui... Et moi, je me rappelle, du coup, la population commence à s'organiser. Et il y a eu des enlèvements, en fait, vous voyez, cette tension-là, peut-être c'est stratégique avant la guerre, on sème la terreur et tout, et ça c'était avant que, donc en 94, et avant 2006,
avant 1996,
voilà. Et puis, mon père, lui, qui était professeur, finalement, il s'organise avec le jeune. La nuit, tous avaient des sifflets, tous avaient des machettes et tout, mais quand il y a une maison qui crie au secours, qui lance un SOS, on siffle et tout le monde se dirige vers cette maison pour aller à la rescousse, sauver cette famille. Et mon père, qui était très très actif dans cela, il a été remarqué par ces militaires de Jean Mobutu qui se met
un peu la terreur là-bas.
La terreur. Et puis, du coup... ces militaires voudraient se venger et puis ils savaient pas peut-être l'atteindre comme il était tout le temps avec le jeune prof comme on l'appelait. Et finalement, un jour, moi j'accompagnais ma mère, je venais de l'école, je devais aller aider maman à ramener ses marchandises à la maison, et du coup devant la cathédrale de Goma, une jeep qui arrive et tout, et puis quelques militaires tombent et qui tabasse ma mère en ma présence, vous voyez. Et donc, ça c'est en 94, et après, vers 95 je crois, en 96, et du coup...
Vous avez gardé cette image-là.
Oui, du coup, Mzé entre, et moi quand je suis allé suivre le discours de Mzé, avec tous les autres jeunes, les parents et tout le monde, et je me rappelle, j'étais à côté de mon père quand on est allé suivre Mzé. Et quand il disait, il appelait tout le monde et tout, et Mzé, quand il dit... Et Bouvidia, Nanawali, Kamouje, Moué Mascari, tout à Songa, Hadi Kinshasa, Mobutu, Namapeperuzake, Watashik, Wanakoué Kagerezani, pour dire, jeunes gens, venez adhérer, vous allez être formés, vous allez devenir des soldats, on va pourchasser Mobutu avec tous ses collaborateurs et on va les mettre. Et écoutez, personnellement, Je ne pouvais pas voir quelqu'un qui défiait Mobutu et ces militaires là surtout. Mais moi, c'est comme si il disait, Josué, viens, et voilà l'occasion de te venger maintenant.
De venger maman.
Voilà. Et donc, vous voyez, avec cette influence là, et puis ben.
Mais vous êtes quand même parti, vous vous êtes fait enrôler sans l'aval de vos parents.
Oui, bien sûr. Donc, ça veut dire que on pouvait se réveiller un jour. On vous dit, Serge, ses parents sont en train de pleurer parce que Serge n'est pas rentré à la maison hier. Et on conclut, on déduit que, il est allé. Le lendemain, c'est Patrick qui n'est plus pas dans le quartier. Et du coup, avec les autres, le Cholaï et quelques autres amis, on s'est dit, écoutez, nous aussi demain, nous partons. Et je me rappelle, c'est ces jours-là, et à 4h du matin, et à 26 octobre, je crois, dans 6. Et du coup, nous disons, et nous aussi, nous partons. Et on se signale, on siffle l'autre qui sort, il ouvre la porte calmement, et à l'insu des parents. Et puis, on est parti au poste de militaire.
Mais est-ce que vous avez pensé à vos parents en posant cet acte-là?
Non, du coup, on n'a pas pensé
on
du coup.
Pas pensé
c'est,
à tout
c'est,
ça.
C'est plutôt...
Votre but, c'était d'aller d'abord
oui,
vous faire enrôler.
Quand on arrive, on nous reçoit et on nous coupe le chevet, on nous embarque dans le bus, on vous bande les yeux pour ne pas voir le chemin et ne pas fuir et tout. Et bien, on nous achemine
dans un camp d'entraînement.
Rwanda, on part jusqu'à Ouganda. Dans le centre de
Matebe,
de formation de Matebe. Et Ben c'est du coup quand on y arrive que voilà la formation doit commencer et vous devez vous habituer au nouveau régime alimentaire et tout ça. C'est là le premier jour dans la soirée que finalement on commence à penser à la maison. Ben on se dit à 7h je serai à table avec la famille, avec les parents et tout. Ben vous devez manger le mvungure cette fois-ci. Et ben voilà.
Et c'est quoi le mvungure?
C'est le mélange des haricots et les maïs, hein, vous voyez, donc dans un tonneau, on met tout dedans et puis avec le sel et ben voilà.
Les conditions étaient très dures, hein, quand
oui,
même.
Oui, c'était très très dur et donc.
Pour un enfant
mais,
de 11 ans
mais
et
comme,
demi.
Mais comme on disait déjà, au léli, au collé la nanani. Donc là, c'était plus un monde d'enfance. Et ben, vous devez précocement devenir responsable et vous assumer. Et ceux-là qui tentaient, bien entendu, de s'enfuir. Eh ben,
vous n'étiez pas tenté de vous échapper, de vous
ben, déjà, oui, après quelques semaines, mais comme il y avait quand même, on punissait et durement alors ceux qui pouvaient tenter à cette aventure-là. Donc j'ai vu des amis qui essaient de s'enfuir et on les attrape dans la brousse parce que vous connaissez pas toute cette brousse-là et tout, vous allez chercher un chemin, je sais pas où. Si on met la main sur vous, on vous ramène au camp. Et pour mon servir d'exemple, eh ben, on exécutait certains. Et donc voilà pour
dissuader les autres.
Dissuader les autres à ne pas oser et tenter cette aventure là. Et donc déjà avec ça, ben il fallait rester s'assumer. Et puis ben on finit la formation. Il fallait commencer la guerre. On a pris notre régiment avait pris l'axe de Beni Kisangani, c'est à Beni où donc la première guerre que j'ai. Donc voilà et on arrive à.
On vous a appris à manier les armes.
Les armes, l'endurance, en fait une formation bien sûr très très vite en 3 mois, mais bon quand même déjà on pouvait faire face aux ennemis. On vous apprend à la manipulation des armes et puis chacun choisit une spécialité, hein, soit les armes, soit les renseignements, soit
les machines. C'est quoi votre spécialité?
Oui, des armes. Mais aussi, il faut souligner qu'il y avait aussi quelques formations patriotiques ou civiques où on vous apprend on vous sérine le valeur patriotique, la défense, l'amour du pays, machin et tout ça. Ben voilà, donc on vous lave le cerveau.
Puis, ben voilà. À l'aide du cannabis.
Ben, il y a quelques amis qui pouvaient consommer tout ça, la drogue et tout. Et puis, ben, ce qui est vrai.
Vous n'avez pas touché à ça, vous?
Oui, quelquefois, je ne peux pas le nier. Mais
c'était pour vous ouvrir l'esprit.
Mais au moins, ben, vous savez, déjà, vous devez faire face à. Bon, en fait, on a tout appris, c'est vrai, mais tuer quelqu'un qui est devant vous, là, à un moment donné, on frissonnait un peu, mais quand tu te dépasses et tu tires, et puis tu vois la personne tomber sous ta balle, et ça devient vraiment comme du jeu, comme dans un film, et on se dit, ben voilà, les modèles Rambo qu'on avait, ben, et qui nous hantaient, et finalement, on s'élance, ça devient vraiment comme un jeu d'enfant, mais bien que très très
risquant. Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois où vous avez tiré sur quelqu'un? Ou vous avez tué quelqu'un?
En tout cas, chair de poule, je tremblais un tout petit peu, et puis, je me suis ressaisi, et c'est parti. Voilà. Donc, et puis, ben, on va
endurer. Et ça vous hantait pas, la nuit, par exemple?
Ben, écoutez, toute réaction psychologique, c'était normal. Hein. Donc, ça veut dire que, après beaucoup de temps, et surtout quand il y a eu des endroits où on pouvait tomber dans des embuscades, on y sort de justesse, il y a eu tel que à Tingiting et à Kisangani, ou en tout cas avec les mines qu'il y avait, beaucoup d'enfants, et là c'était vraiment un carnage beaucoup de nos compagnons sont tombés. Et quand vous voyez ces images-là, comment les cadavres d'amis que vous pourriez vous-même transporter et enterrer, et puis, ben, à Kenge aussi, à Bandundu, ici, avant d'arriver à Kinshasa. Et donc, il y a des endroits comme ça. Moi, ces images-là, parfois, ça me revient, bien que aujourd'hui, en tout cas Dieu, je peux dire, Dieu et aussi l'affection de beaucoup de gens que je pouvais rencontrer ici. Je connais quand même beaucoup d'hommes de bonne foi, des gens qui pouvaient me choyer, c'était une grâce peut-être. Et donc voilà, et avec cette affection-là, loin de parents et tout ça, m'a aidé à me réintégrer socialement et à redevenir normal. Et
puis, ben, voilà. Vous êtes resté combien de temps dans le camp de formation?
On a fait 3 mois et on a commencé la guerre, on est arrivé à Kinshasa.
Sept mois de guerre.
Oui, 7 mois de guerre.
Des milliers de kilomètres de marche à pied.
Il fallait traverser avec aussi certaines pirogues de paysans, de villageois qu'on pouvait prendre ou solliciter et tout ça. Et puis, ben voilà, avec tout le risque aussi dans les forêts et tous les animaux féroces et tout ça. Mais bon, on a bradé tout cela et finalement, on entra à Kinshasa triomphalement et ben voilà.
L'objectif était atteint.
Oui,
c'était... Et c'était quoi votre sentiment ou votre envie en ce moment-là? Continuer dans l'armée ou réintégrer la vie civile?
Ben, Madame Kelly, c'était tout d'abord une timbale décrochée. Ben, vous savez, on nous gérait aussi avec une supercherie impossible. Parfois, vous êtes assoiffé et on vous dit, ben, vos commandants et les autres vous disent, ben, écoutez, après cette montagne-là, il y a une source d'eau là-bas. Donc, ben, on vous fortifie, vous devez aller, et quand vous y arrivez, non, nous nous sommes trompés, c'est pas ici, c'est l'autre. Donc, on vous gère comme ça, mais quand on arrive finalement, et timbale décrochée, donc c'est vraiment, on a atteint l'objectif. Mais c'est vrai, accueilli triomphalement à Kinshasa, certaines les personnes, des mamans qui pouvaient nous amener de bananes, et les autres qui sortaient leur pagne et tendaient leur pagne, et puis ben voilà, mais. Après, quand même, l'ambiance, c'est vrai, on vous paye à 100 dollars le mois, et c'est dans une grande ville, mais à Kinshasa, c'est la vie qui commence et tout. Mais les promesses, on vous a dit, vous pourriez continuer les études, aller même dans les grandes écoles en Europe et tout, mais bon, tout cela n'a pas été réalisé, mais au moins. Et après un temps, il y a les soucis maintenant, parce que quand je fais un grand effort d'avoir le parent d'abord vers qui s'engage à la phonie, ça n'a pas marché. On n'a pas pu aller chercher. J'ai donné l'adresse et que je connaissais pas trop bien aussi. Et puis ben mais alors j'ai donné l'adresse de l'école où Instigo, on pouvait aller chercher mon père et tout. Et puis qui commençait maintenant à enseigner aussi à l'ISGA à Goma et à un institut supérieur.
Donc pendant tout le temps des guerres, vous aviez coupé tout contact avec la famille.
Oui, oui, et puis bien, la famille pensait d'ailleurs que j'avais trouvé la mort à Kisangani, parce que notre régiment qui avait pris cet axe, avec les massacres et surtout qu'il y a eu, mais c'est plus tard à Kinshasa que finalement je vais quand même parler avec la famille, mais... Et ça ne va pas prendre longtemps parce qu'en 98 et en 98, c'est encore une nouvelle guerre
qui commence
avec les RCD et tout. Et ici, nous, on était rebelles là-bas. Et aussi, c'était rebelles. Donc, par rapport au gouvernement et les gouvernements qui étaient aussi rebelles par rapport aux ennemis. Et ben voilà, donc on a vécu dans cette situation-là où c'était difficile de communiquer même avec la famille. Et même lorsqu'on commence l'opération de démobilisation et tout ça, quand il fallait passer à la phase de réintégrer les enfants, mais c'était, nous on nous a amené à un CTO, au centre de transit et d'orientation avec Kimwenza là-bas avant, et de voir comment nous réintégrer, mais ceux qui avaient de famille en Europe, à l'étranger, HCR pouvait s'en servir, et même la MONUC pour les réintégrer dans leur famille, même à l'étranger. Mais bon, nous autres, on devait attendre parce que nos familles étaient là-bas. Mais moi, je me rappelle que j'ai été parmi ceux qui ont lutté vigoureusement pour la démobilisation des enfants.
Vous avez fait même la prison?
Ben oui, ça c'est, je dirais, une petite aventure, une histoire que je raconte, puisque ben quand je demande à mon chef direct, afin de Joseph Kabila à l'époque, qui était général, je demande, mes chefs, vous nous aviez dit qu'on devait rentrer aux études, parce que bon, quand j'ai eu le coup de fil, pour la première fois, je suis entré en contact avec la famille à la phonie. Et du coup, on a trouvé le moyen de communiquer quelques fois. Et mon père pouvait toujours me rappeler, j'étais toujours dit qu'on ne devient jamais un homme si on n'a pas étudié. Et cette phrase-là, elle m'est hantée, elle m'obsédait. Et bien voilà, donc un jour, je rappelle à mon chef, j'ai dit à mon chef que nous, voilà, il nous avait dit qu'on devait rentrer. Moi, je voudrais, et tout. Il dit, mais la guerre vient de commencer, toi, tu veux influencer les autres, et qui va aller, machin. Et puis, j'étais entré en contact avec Madame Carole à l'UNICEF, que je rencontrais un jour comme ça, et du coup, elle me proposa d'identifier les autres enfants et voir si elle m'a promis de m'aider à regagner les. Ben, en fait, je parle quand même avec mon chef, je tente tous les deux côtés, j'ai parlé à mon chef, j'exprimais mon désir. Et puis, ben d'abord, il m'est puni, mais il m'est là-bas.
Au cachot.
Et puis après, il m'a dit, rappelle-moi ces petits cadeaux là, mais toi tu vas aller étudier. On est venu quand même avec une liste des autres, quelques amis, on était une dizaine, Prince, Alain et les autres, et afin de nous dire, ben écoutez, à la fin, il a quand même instruit à G3 au département Hopes and Training de l'état-major général. Pour qu'on nous donne les recommandations. Et on est allé déposer ça au préfet des écoles et on a repris, on nous appelait en ce moment-là les élèves militaires. Mais on était militaires, donc on pouvait aller à étudier et puis peut-être les après-midi.
Et vous avez repris en quelle année, quelle classe
Déjà, en tout cas, j'ai repris en troisième du coup, mais j'ai cherché quelques professeurs qui m'ont aidé à me rattraper si vite. Hein, et puis, déjà. Il y a le préfet, quand j'arrive, je donne ma recommandation, mais j'ai quand même supplié, je lui ai demandé qu'ils disent pas aux gens, et même aux profs,
parce que
j'avais besoin vraiment de des autres et d'être. Bien que j'étais très timide, je rigolais pas, je riais pas, je parlais presque pas. Et il y a des amis qui pourront me suivre. Et puis, quand tu rentres à l'OIA ou au camp Loineau et tout, mais. À un moment donné, tu es en témis, tu vois, un condisciple de classe. Hein, il faut vraiment fuir et puis se cacher.
Ouais.
En tout cas, il fallait se cacher. Mais c'est après une année que, un jour, quand on reprend la nouvelle année, je pense maintenant en quatrième, au Collège Saint-Georges, d'ailleurs, mes hommages au préfet Bouti, qui n'est plus depuis l'année passée, et qui m'avait reçu, en fait, à l'époque. Et le préfet Bouti, après une année, et quand on reprend la nouvelle, au rassemblement, là, il y a eu deux élèves qui s'étaient mal comportés à l'année passée, qui ont eu même à tabasser un professeur, parce que peut-être qu'ils n'avaient pas réussi, et ils n'avaient pas passé de classe, ils se sont appris à un professeur titulaire de leur classe. Et l'année qui suit, le préfet il appelle ces élèves-là, il les suspend, il les chasse de l'école brusquement comme ça. Et puis, il m'appelle et il me donne comme exemple. Il dit aux gens, est-ce que vous savez d'ailleurs qui est ce jeune homme? Mais vous voyez comment il est respectueux envers les professeurs, comment il se comporte et tout. Vous pensez que vous êtes plus fort que lui? C'est un militaire. Ben alors, là, du coup, il a mangé la consigne et j'étais très mal à l'aise. Mm-hmm. Voilà, donc, mais au moins...
Et vous aviez le regard de tous les élèves.
Ah oui, mais il m'a donné des cadeaux, des encyclopédies, des dictionnaires et tout, devant tout le monde. Il me dit, ben voilà, il se comporte très bien. Et voilà, et puis, ben, depuis lors, en tout cas...
Mais la réintégration n'était pas facile quand même.
Oui, ben, vous voyez déjà, quand on sait que vous avez été dans l'armée à cet âge-là, ben, on vous prend pour un petit démon, un petit délinquant voyou. Et pourtant, c'est vrai qu'on était mélangés. Hein. Il y en a assez là qu'on ramassait dans la rue. Et puis, il y en a aussi des enfants de la maison qui, et même à un moment donné, pouvaient aller se faire enrôler et tout. Alors, on était mélangés. Et donc, voilà. Mais ça n'a pas été facile parce que, déjà, quel regard les gens avaient envers nous quand on sait que vous êtes passé par l'armée, vous êtes. Ben voilà. Et ça n'a pas été facile. Il y a déjà qui pouvaient vous éviter. Il y a deux gens qui pouvaient avoir vraiment un regard pas gentil envers vous. Et puis, ben, mais. Et quand même. en bien se comportant, en faisant des efforts pour bien s'intégrer et petit à petit.
C'était un ouf de soulagement lorsque
oui,
vous avez été démobilisé.
Oui, mais quand, finalement, déjà de 99 en 2001, on pouvait étudier tout en étant élève militaire, comme on disait.
José Moufoula, on va souffler un peu avant de continuer notre récit qui est
d'accord,
très intéressant.
D'accord, madame.
Expérience d'un enfant soldat, pas toujours facile. C'est quoi votre plat préféré?
Je dirais pommes de terre et le madessou. Voilà, pommes de terre et les maraguis, donc
les haricots. Quoi. Et comment vous passez vos moments de détente?
Disons, en tout cas, si je ne suis pas à l'église, dans les activités de l'église, à la borne, à Lupin, je suis soit à l'université où j'enseigne, ou soit je suis dans les recherches doctorales à l'UCC, d'où je viens de finir ma maîtrise, mon DA. En philosophie politique. Et donc, voilà les endroits qui m'ont occupé.
Pourquoi
mais
la
aussi,
philosophie politique?
À cause de Mzé. Voilà. J'aimais comment sa diction, sa façon d'agencer ses idées. Et du coup, un jour, quand je voulais reprendre les études, j'ai posé la question, mais Mzé Hirodia et Mzé Kabila, qu'est-ce qu'ils ont fait comme études? On me dit philosophie, je connaissais pas du tout c'est que ça. Mais voilà. Et j'ai dit,
vous a beaucoup marqué, Mzé Hirodia et Kabila?
Absolument. C'était comme un père et tout. Vous voyez, vous venez dans une aventure avec quelqu'un qui est comme votre papa, votre père qui vous amène, qui nous a tiré de l'affection parentale et qui donc il devenait du coup notre papa. Et voilà.
Est-ce qu'il connaissait tous les Kadogo, tous les enfants soldats autour de lui?
Pas tous, mais il y avait qui se faisait remarquer. Moi,
Comme vous, par exemple.
Je dirais que je parlais mon petit français déjà appris à la maison et ça pouvait peut-être attirer l'attention. Donc, je me rappelle même quand il fallait faire l'appel des autres recrues et moi, du coup, qui sait écrire et qui sait. J'étais toujours là. Et bien voilà, et on m'a remarqué comme ça. Je pouvais faire l'appel nominal des autres et pointer leur présence, machin et tout.
Et qu'est-ce que vous avez ressenti lorsqu'il a été assassiné en 2001?
C'était un choc, je me rappelle déjà du coup en classe aux alentours de 10h, 11h et le préfet lui-même vient m'appeler, me sortir de classe et m'amène dans son bureau et me dit mais tu as appris ce qui se passe? On dirait que j'étais décontenancé, je pouvais pas croire et du coup j'ai quitté, j'ai laissé tout dans la salle, je suis allé au camp mais j'ai vu vraiment l'alerte et tout ça et puis je me suis rhabillé en tennis et au fait on était sur les qui-vivent, on était tous en alerte et c'était vraiment il y a du coup les ressentiments, les vraiment la vengeance qui on avait détruit lâchement votre papa et donc on était prêt à tout en ce moment là c'est un peu ça. Et mais il y a son ami quand même Mzé Hirodia qui va me découvrir et qui m'a soutenu comme je dirais peut-être son fils adoptif, et il m'a soutenu même dans les études parce que juste quand le Mzé est tué et afin de Joseph Kabila devient président, écoutez les à couper et tout, et à aimer, mais finalement, soutien, m'encourage dans les études et tout, et d'autres personnes de bonne volonté, notamment aussi Madame Carole de l'UNICEF à l'époque, et on a créé en ce moment-là BINADER, Bureau National des Mobilisations et Réinsertion des Enfants Soldats, qui va devenir plus tard la CONADER avec Madame Péassona, mais aussi elle est partie, Madame Claudine Malela. Voilà, c'est comme ça qu'on a collaboré avec eux et on a aidé d'autres enfants à être identifiés et même à être
démobilisés.
Oui.
Vous aimez la musique, José?
Oui.
Quel genre de musique religieuse?
Reggae, mais aussi la musique religieuse du genre Michael Smith, Domoun, Paul Baloch, en tout cas tout ce qui est tendre et douce musique d'adoration chrétienne. Mm-hmm.
Le reggae,
ça c'est, c'est plus qu'un banzai ou cri de guerre pour moi et j'aime bien.
Qu'est-ce que vous aimez dans le reggae? La mélodie, les paroles,
parce qu'on dit souvent
que c'est un message souvent de révolution.
Oui, mais et puis aussi la profondeur, j'aime même le style de tous les rastas et tout ça, et puis ben, vous voyez, aujourd'hui j'ai changé ma Kalachnikov à la plume. J'ai découvert en moi les talents d'écriture. J'écris, j'ai déjà plus de 5 romans.
Vous êtes aussi
enfant des guerres,
romancier, je dirais.
Oui. Et puis ben voilà, d'ailleurs je vous fais l'exclusivité de vous annoncer que je suis en train de sortir un roman sur le colonel Mamadou Ndala. Voilà.
Ok.
C'est une exclusivité, c'était un secret, mais bon, je vous l'ai dit.
Ah merci.
Dans des semaines, un roman fictif et historique va sortir.
Est-ce que vous l'avez connu?
Pas tellement, mais de loin, les images, les infos, j'ai vu, et puis ben écoutez, moi personnellement, je me suis identifié en lui, j'ai vu ce que je voulais être, un héros pour le peuple, défendre le peuple, le pays, et surtout que la jeunesse a des crises des modèles. Pour moi, je me dis, voilà des valeurs patriotiques qu'il faudrait exalter.
Voilà. Alors on va attendre ce roman sur le colonel Mamadou Ndala qui nous a quittés. Quelle chanson vous ferait plaisir en ce moment?
En tout cas,
reggae.
Mon pays va mal.
C'est de qui? C'est juste toi qui es champion. Tu connais les titres et les musiciens.
Le pays. Voilà. Mais
c'est de Tiken.
Ben, mais même Alpha Blondie ou La Kido, ben, ça me va.
D'accord, on va trouver un titre qui vous fera plaisir, n'est-ce pas, JC?
Ou Senzo, I am a peace soldier.
D'accord, on va essayer de retrouver la chanson, mais si on la retrouve pas, on va vous mettre autre chose qui vous fera plaisir, mais on va rester dans le reggae.
Merci.
Moi, je suis pas trop reggae, hein, donc je connais pas très bien tous ces musiciens-là. Merci, Gisèle, de nous balancer la chanson, et puis on se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
Hello, my enemy. parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ses acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Couté sur Radio Okapi.
Grand Témoin, c'est du coup qu'aujourd'hui, José Moufoula, un ancien Kadogo, c'est-à-dire un ancien enfant soldat. Actuellement, il est chef des travaux.
Chef des travaux, doctorant.
Doctorant en philosophie
je
politique.
Je peux pas ma thèse.
Romancier aussi, voilà, en voilà. Même temps, tout ça
écrivain,
c'est
jeune vous. Écrivain.
Vous avez 31, non?
Oui, déjà 30 ans. Et 30 ans. J'aurai 31 bientôt, donc au mois de novembre prochain.
Marié?
Non, pas encore, mais fiancé. Je pourrais me marier dans 2 mois, 3 mois.
D'accord, José. Alors, José, vous avez parlé de votre expérience hein, comme enfant soldat. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de ces gens qui continuent à recruter les enfants dans leur milice?
Non, je pourfends toujours cela et j'insiste. Je dis toujours que la place de l'enfant n'est pas dans l'armée, mais c'est à l'école et en famille. Je fustige cela et surtout ce qui utilise les enfants des autres et pas leurs propres enfants. Et donc voilà, j'en appelle à leur conscience et voilà quel monde nous voulons avoir demain. Et si nous chantons même dans notre hymne ici au pays, en fait c'est un appel que je lance à tous les dirigeants dans tout le pays du monde et surtout d'Afrique. Mais dans le pays, nous disons un Congo. Nous voulons un Congo plus beau qu'avant, mais avec quelle jeunesse hein. Et voilà, donc c'est l'espoir de demain. Et donc, il faut préparer ses enfants, pas dans l'armée, mais à l'école, en famille, pour que nous ayons une société demain plus ou moins équilibré et stable. Voilà.
Lorsque vous faites une rétrospective, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que c'était une erreur de votre part d'avoir répondu à l'appel de Mouzée, d'avoir intégré l'AFDL?
Ben, ce que souvent je regrette, c'est le fait d'abandonner laisser les parents dans un état d'anxiété, parce que j'aurais appris qu'après mon départ, mon père se serait permis, il a essayé d'aller me chercher là-bas et tout, et on le chassait comme un chien. Vous voyez, ça, c'est, ben, en fait, mais c'est vraiment une fierté, un sentiment de fierté d'avoir servi mon pays sous le drapeau, bien que, bien sûr, j'avais pas encore l'âge requis pour ça. Mais bon, voilà, c'est arrivé, c'est ma vie, c'est mon destin, et voilà, je l'assume, et je suis fier, en tout cas, d'avoir vengé aussi, entre guillemets, ma mère, battue, tabassée par les forces armées zaïroises, hein, les KZSEC, les contingents zaïrois pour la sécurité des camps de réfugiés. Mm-hmm. C'est comme si j'ai vengé ma mère. Donc voilà.
Une épreuve quand même assez triste, hein.
Ben, et puis quand je tirais sur elle, j'avais toujours cette image-là. Comment ils pouvaient s'apprendre à ma mère, hein, simplement parce que mon père organisait les jeunes pour défendre les autres familles dans les quartiers. Et puis ben, c'est ma mère qui va payer tout ça. Et voilà, pour moi, c'était un sentiment de... Je me dis, ben, je me suis vengé.
Est-ce que vous avez mis en place une ONG ou une structure pour sensibiliser sur l'enrôlement des enfants?
Si, plusieurs fois invité dans les activités de la MONUSCO, l'UNICEF, dans les activités. Ben, j'ai assisté aussi à quelques sommets, même à l'étranger, avec les professeurs Ntumbalo Abba et les autres, dans les cadres de la CONADER ou BINADER à l'époque. Mais aussi quelques activités personnelles, c'est que j'ai organisé des conférences dans plusieurs écoles ici à Kinshasa et même ailleurs en province, et pour conscientiser les enfants et tout ça, les dirigeants aussi par rapport à cela. Mais bon, Mais il faut dire que en écrivant aussi quand même, je pense que c'est aussi ma façon de m'exprimer.
Mais ça n'atteint pas tout le monde. C'est vrai que vous écrivez, ça n'atteint pas tout le monde.
En fait, je publie souvent chez Mediaspol. C'est une grande maison d'édition qui a même de représentativité dans les provinces, partout. Mais bon, vous connaissez, les écrivains, beaucoup ne s'enrichissent pas de leurs écrits, surtout en Afrique. Et que, et voilà, personnellement, mon tout petit recueil de poèmes, je me rappelle, c'était avec la prime de démobilisation qu'on nous avait donnée à l'époque, insuffisante, à $300. En deux jours, en un jour, il y a d'autres qui ont dilapidé et c'est fini, qui sont allés dans les débits de boissons, et puis le lendemain, ils n'avaient plus même un $10. Je me suis arrangé personnellement avec Papa Franck Lumba, là, qui était au Binader à l'époque, il travaillait avec Madame Malela, et j'ai dit, Papa Franck, il m'a dit, tu vas faire quoi avec ton argent? Ah, j'ai dit, mais Papa Franck, est-ce que c'est possible avec ça? J'écris des petits poèmes quand je suis en classe ou quand je suis au camp militaire à la maison, donc à la maison, disons, quand je rentre de l'école. Et il me dit, mais toi, tu as quoi? J'ai amené le lendemain des papiers, comme si je lui montrais des petits poèmes. Là, il y avait un poème, je disais hommage à Moïse Kabila et tout, il y a d'autres poèmes.
Des poèmes ayant trait à la vie de l'enfant soldat
Vous
mélangez tout.
Tout. Et puis j'ai un autre où je disais, pourquoi suis-je un Che gay? Vous voyez, donc tous ces enfants qui étaient sur une corde raide et dans des situations difficiles socialement parlant, et pour moi je me sentais comme un peu leur défenseur. Mais
donc vous inspirez des faits de société.
Oui, j'avais de quoi leur donner, ou je sais pas, les sauver de là où, mais bon, en fait j'essayais, donc voilà, c'est l'écriture qui était devenue, qui a substitué ma Kalachnikov. Et donc si je pouvais me défendre quand je me sens faible avec l'arme, mais maintenant là, je trouvais en écriture la meilleure façon de m'exprimer, de raconter ce que j'ai vécu, de partager mon expérience et de défendre aussi les enfants.
Mais c'est quand même rare de trouver un enfant démobilisé. C'est sans vous flatter, hein, comme
merci.
Vous, c'est quoi le secret?
Déjà, ça dépasse, hein, beaucoup de gens. Je dis, mais non, c'est pas possible, hein, mais j'ai des photos, mais bon, disons que moi je me dis, excusez-moi, je suis chrétien, je me dis que c'est dur. Donc, en tout cas, Dieu m'a beaucoup aidé la prière, et voilà, mes talents qui étaient cachés à moi se sont fait sortir plus tard, et ben voilà.
Parce que depuis que vous étiez petit, vous aviez cette envie-là d'apprendre, d'étudier.
Oui, c'est ça, mais bon, écoutez, moi je n'ai pas aimé le fait que quand on démobilise les gens, on vous donne $300, les enfants qui viennent de loin de leurs parents, ben c'est vrai aussi, on ne peut pas donner à l'enfant $10 millions pour qu'il en fasse quoi, vous les détruisez. Mais au centre des transits, par exemple, où on était, on pouvait les encadrer et psychologiquement, les préparer, mais ce que je n'ai pas aimé, on pouvait limiter en disant on les réintègre, on les forme à des métiers, ils vont apprendre à faire le savon, apprendre à être chauffeur, mais vous apprenez quelqu'un à conduire et puis vous les réintégrez dans son village, je ne sais pas, de Malembankoul ou je ne sais pas d'où, à Kanyaruchinya ou je ne sais où, et ben, qu'il aille conduire quel véhicule là-bas. Vous voyez, c'était ça la difficulté. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un article par rapport à cette problématique de réinsertion des enfants soldats.
C'était un plaisir, José.
C'est plutôt moi qui vous remercie.
De vous avoir dans ce studio.
Oui, après quelques années, voilà, je me retrouve encore dans ce studio. C'est un plaisir.
Et moi, je suis contente d'apprendre que vous êtes doctorant.
Ah bah oui, hein. Mais ben oui, hein.
Félicitations.
Donc, c'est ça, je suis content, fier, et je bénis Dieu pour ça, qui m'a permis d'avancer sur le plan des études.
Alors, un dernier petit mot à tous ceux qui nous suivent en ce moment, aux jeunes gens.
Meilleurs vœux à toute la population de Goma, et ben voilà, meilleurs vœux aussi à tous les journalistes de la radio au Capi.
Meilleurs vœux à toi aussi, hein. Je t'ai pas présenté les vœux quand
j'ai arrivé. Merci, Madame Kelly.
Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Josué Moufoula, c'est un ancien Kadogo. Merci à Jean-Claude Siala qui était à la prise de son. Au micro, Kelly Nkouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.